RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
C'est une étude aujourd'hui qui le démontre. Les jeunes, quand ils arrivent sur le marché du travail, tout du moins à certains postes, bien évidemment, disent « Ok, d'accord, mais conditions sine qua non pour que j'accepte ou que je signe avec vous, il me faut au moins un jour ou deux jours de télétravail. »
Oui, on voit que la façon d'envisager le travail a évolué avec cette nouvelle génération. Le télétravail s'est imposé depuis le Covid, d'ailleurs pas que seulement chez les jeunes. Il y a maintenant beaucoup de salariés qui ont au moins une ou deux journées de télétravail par semaine. Et donc, on interroge les jeunes diplômés et ils expliquent que le télétravail, c'est non négociable. Ils sont même prêts à refuser un emploi s'il n'y a pas de télétravail possible. Est-ce que vous comprenez cela ?
Bruno ?
Évidemment que je le comprends.
Est-ce que c'est pas un caprice ?
Mais pas du tout. Mais en fait, en plus, c'est les entreprises qui ont imposé ça.
Les conducteurs de train font du télétravail.
Non, mais bientôt ils le feront parce que les trains sont automatiques, tu vois. Hein, ça existe déjà. Bah, bien sûr. Hein. Non, mais moi, je me rappelle, moi, j'ai négocié l'accord de télétravail SNCF en 2017. Et en fait, à l'époque, c'était deux jours et très peu de gens le faisaient. Et arrive le Covid et ils nous ont tous forcés à être chez nous, à faire du télétravail. Et d'un seul coup, bam, le télétravail, c'était faisable pour tout le monde et cinq jours sur cinq. Donc en fait, une fois que t'es revenu après au boulot, on va pas t'expliquer, en fait, le télétravail, c'est plus possible, faut que tu retournes à cinq jours. En plus, les gens, post-Covid, il y en a plein qui sont partis, qui ont dit, bah, moi, je vais aller habiter un peu plus loin que la ville parce que j'en peux plus de vivre dans un 20 mètres carrés avec un balcon qui fait 3 mètres carrés. Donc en fait, le télétravail est devenu une ressource supplémentaire pour les employeurs pour attirer des gens, c'était vrai. Et puis moi je vous rappelle que Renault, Stellantis et plein d'autres ont dit bon, on a arrêté d'avoir une Renault le principal. On dit moi je veux plus, j'ai plus besoin de bureau pour faire une direction, tout le monde en télétravail dans ma direction. Les reviennent en arrière parce que soi-disant les gens en télétravail ne produisent moins. Moi ça m'a toujours fait rigoler ça. Moi j'ai vu du télétravail avec mes chefs où les chefs se faisaient des réunions toutes les demi-heures pour dire qu'est-ce que tu fais. Alors qu'en fait tu étais en train de faire ça chez toi, tu vois. Mais le télétravail, les jeunes aujourd'hui, c'est pas qu'ils sont moi je ne comprends pas comment on peut toujours opposer les jeunes aux vieux. Moi je veux dire, le télétravail aujourd'hui, les jeunes, peut-être qu'il y en a plein. Et moi, dans ma boîte, aujourd'hui, je travaille avec plein de jeunes. Hier, j'étais entouré que de gamins, j'étais le bicentenaire là-dedans. Je crois même, genre, ils auraient pu être mes petits-enfants. Et en fait, en discutant avec eux.
C'est un intérêt pour le salarié, le télétravail, je comprends bien, mais pour l'employeur.
Ben, pour l'employeur, déjà, c'est que t'as moins de locaux. Moi, les SNCF, ils font du flex-office. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de passer aujourd'hui à un bureau
oui,
par personne.
Mais dans le management des équipes, quand tu t'as jamais perdu. En fait, les gens sont jamais tous ensemble.
C'est bien sûr que
mais
si.
Non, au même
mais
moment.
Si, t'imposes une journée ou deux dans
alors
la semaine.
On n'a pas télétravaillé vendredi.
Mais ça n'a rien à voir, ça. Moi, dans ma boîte, le télétravail, c'est par exemple le mardi ou le jeudi, tout le monde est là. C'est comme ça. Et si quelqu'un qui est pas là, mais en fait, moi, où je travaille, par contre, on est là du mardi au jeudi tous. Hein. Mais en fait, le télétravail, c'est devenu un critère.
Trois jours, hein.
Et de toute façon, si tu veux.
Et là, on est jeudi.
Oui.
Bah le télétravail.
Bah ouais, moi non, je viens de te dire mardi.
Le télétravail et puis tout à l'heure.
Ouais, mais moi je.
Donc en fait, il y a que trois jours dans ta boîte où on est en présentiel, comme on dit.
Non, pas dans ma boîte. Là où moi je travaille.
D'accord.
C'est des accords par établissement. Okay.
Et le reste, c'est du télétravail.
Mais tu vois, par exemple, moi j'aurais dû être en télétravail lundi. J'étais au boulot. Moi, je préfère être au boulot que être en télétravail. Le télétravail, ça me branche pas plus que ça.
Tu vois.
Mais moi, je suis vieux aussi.
Moi, je suis Laurent.
Ça fait vraiment partie des choses. On reviendra pas en arrière. J'ai aucun doute. Plus personne n'acceptera. Alors, effectivement, faut préciser de quoi on parle. Oui, on parle des emplois cadres,
oui,
des
cadres,
etc. Parce qu'on parle des gens qui n'ont pas besoin.
Pas bah,
enfin, c'est pas les artisans commerçants, en tout cas.
Non, mais.
Pardon.
Et les emplois transverses, c'est pas des cadres.
Attends.
Oui, non. Et bien sûr, mais on parle de gens qui peuvent travailler à distance. Donc, qui, globalement, travaillent
c'est
sur
quand
un
même
ordinateur.
Les boulots de col blanc.
Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement on reviendra pas en arrière, donc le sujet, c'est pas est-ce qu'il faut oui ou non du télétravail, c'est comment on crée un management qui est adapté à ce télétravail, mais en plus on va aller encore beaucoup plus loin parce que entre l'intelligence artificielle, etc., ça rebascule totalement la façon dont on a de travailler ensemble, de collaborer. Et ce qui est débile, c'est que moi je le vois parce que je travaille avec beaucoup d'entreprises, donc je me promène dans les entreprises, donc je vois bien comment ça marche. C'est qu'on maintenant on vous fait venir au bureau pour vous mettre en réunion visio. Donc vous faites une heure de transport et après vous vous mettez derrière un ordinateur. Donc ça n'a aucun sens. Donc moi j'encourage les entreprises à faire du télétravail quand il s'agit de travailler sur un ordi. Et quand on est ensemble, on ferme les écrans et pour le coup on se parle, on discute et on fait pas ni travailler l'IA ni travailler les outils
digitaux. Est-ce qu'on sait faire encore? C'est-à-dire que si on ne travaille plus jamais ensemble, c'est-à-dire que si chacun est dans son coin, le jour où on doit être ensemble pour travailler, on n'a plus le mode d'emploi pour
non,
ça. Travailler en équipe, ça, c'est quelque chose qui s'apprend.
Et les salariés qui sont en total télétravail sont très malheureux aussi. Donc la question,
aussi
c'est
moi, je connais des gens en télétravail. Au début, ils trouvent ça c'est formidable parce qu'ils ont l'impression d'être, ils sont en pyjama chez eux et qu'ils ont quand même l'impression d'être un peu en vacances chez eux.
Comme
quand même.
Le patron du GIEC, il est en slip.
Mais quand même, ils sont très isolés. Et puis t'es pas près de ton manager. pour les augmentations, pour te faire bien voir, etc. C'est plus compliqué.
Mourad, ouais. C'est toi, difficile. Dans ta maison d'édition, est-ce que tu as beaucoup de gens en télétravail?
Oui. Ouais, j'ai eu différentes périodes de ma vie. J'ai tout à l'heure eu beaucoup de salariés à une époque où le télétravail n'existait pas.
Ouais, ça c'est clair.
C'est difficile d'avoir une position parce que ça dépend vraiment des personnes. J'ai eu des salariés en télétravail qui peut-être en faisaient plus que si c'était pas en télétravail. Oui. J'en ai. Puis j'en ai qui font beaucoup moins. Donc ça dépend vraiment de l'implication des personnes. Donc moi, ma position a toujours été de dire que c'est pas le temps de travail qui crée la richesse, c'est la qualité du travail. Je préfère quelqu'un qui produise de la richesse en 10 heures que quelqu'un qui produise de rien en 35 ou en 30 ou en 40. Et que donc, c'est pas la quantité. Ça, c'est le côté pour défendre un peu le télétravail et le bien-être des gens. Après, à côté, je sais aussi que la notion d'équipe est importante. Moi, je me souviens, dans ma première boîte d'édition, il y avait la machine à café.
Oui.
C'était un endroit magique. Ouais. Il y avait des échanges entre chacun et on trouvait des idées. Incroyable, tout en commandant un café. Et puis c'était aussi un moment important dans une entreprise,
la convivialité,
où les gens étaient entre eux. Et ce lien, pendant des périodes difficiles, les périodes de bourre par exemple, bah, il peut servir parce que les gens, il y a ce lien qui s'est créé où on dit bon, bah là il faut en mettre un peu plus. Après ça sera plus calme, on va se rattraper. Et ça en télétravail, c'est pas possible. Après, pour vous donner des anecdotes en télétravail, j'ai des gens qui m'expliquent, j'ai quelqu'un qui m'a dit, je prends l'avion toute la nuit, est-ce que je peux être en télétravail dans l'avion? Ça existe. Il y a des gens que j'appelle qui sont en télétravail qui me disent je suis désolé, je suis dans le train, ça passe pas. Ça, c'est aussi la partie bizarre du télétravail. Après aussi, dans des périodes comme celle-ci, je veux dire que c'est sûr que c'est un confort économique de pouvoir travailler de chez soi parce que le déplacement, ça coûte cher.
Ah, oui.
Par exemple, ça coûte très cher. Mais en même temps, c'est un inconfort économique pour la vie sociale. Par exemple, le petit bistrot qui travaillait
à ça.
Grâce à l'entreprise, lui, il va plus bosser parce que les gens sont de chez eux. Donc moi j'ai du pour et du contre, j'ai du mal à me
faire l'émulation et pour l'émulation
de,
pour
j'essaie
l'émulation
de pas faire du porté, j'essaie de faire du sur mesure en fonction des
mais personnes. C'est pas du
oui mais tu vois
non,
mais pour l'émulation le, c'est une transition, donc le petit bistrot qui est à côté, si on se dit que les jours où on est au travail on passe du temps de qualité ensemble, bah on va aller au petit bistrot, on va prendre le temps
jours,
on va déjeuner. Oui mais c'est aussi les gens ils déjeunent aussi qu'un sandwich devant leur ordinateur au bureau. Donc c'est aussi comment on crée un temps de convivialité quand on est ensemble sans écran et comment on crée un temps d'efficacité quand on est séparé sur écran.
Non mais les gens en plus ils comprennent pas. Je pense que là aujourd'hui dans les discours on entend le télétravail. Mais le télétravail c'est pas du 100% télétravail.
Non, il y a très peu de boîtes qui fonctionnent comme ça. Trois jours.
C'est voilà. T'es trois jours au boulot en règle générale et t'es deux jours en télétravail si tu veux. Ouais. Parce que le télétravail moi dans ma boîte c'est un choix. C'est pas une obligation. Donc à un moment donné il faut. Ah c'était une obligation pendant le Covid et ça moi j'ai toujours un peu en train de la gorge cette histoire. Mais enfin c'est autre chose. Mais en fait tu vois et je trouve qu'à un moment donné il faut arrêter de fantasmer. Le télétravail c'est pas je suis cinq jours chez moi en slibard et puis j'attends que mon patron m'appelle et je
dirais.
Mais oui, ça existe, mais ça c'est.
Et comment tu le contrôles ça?
Mais ça choque du patron.
Regarde les gens du patron.
Voir
les gens qui demandent une journée de congé, c'est rarement une journée de télétravail, c'est souvent une journée présentielle. La majorité est écrasante sur les congés courts. Alors sur les congés longs, ils peuvent pas faire autrement, parce qu'il y a des jours de télétravail. Mais sur les congés courts, quand ils veulent une journée ou deux, c'est que des jours en présentiel.
Oui, mais les salariés qui traînent à la machine à café et qui foutent rien de leur journée au bureau, ça existe aussi.
Mais tu les vois tout de suite. Alors qu'à la maison, comment tu contrôles?
Impossible.
On a Adèle qui veut intervenir dans notre discussion. Il est du côté du Val d'Oise. Ah ben, il est manager, justement. Bonjour Adèle.
Bonjour Adèle.
Bonjour.
Alors, on rappelle, un jeune sur deux refuse les emplois s'il n'y a pas de télétravail. Est-ce qu'ils ont raison? Faut s'adapter à eux ou est-ce que c'est du caprice? Dites-moi.
Alors, c'est plus que du caprice. Pour moi, c'est même limite inadmissible. Désolé, je vais être un peu cru. Moi, la situation là, que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est pour ça que je me suis arrêté. J'ai garé la bagnette. J'ai dit, il faut que j'appelle les grandes gueules et partager un petit peu mon expérience. Moi, ce qui se passe, c'est que depuis à peu près 2 ans, le télétravail, 8 fois, 9 fois sur 10 entretiens, il intervient. Donc moi, on me pose clairement la question, est-ce qu'il va y avoir des journées de télétravail? C'est simple, même si la personne a les bonnes compétences et qu'il correspond parfaitement au profil recherché, je ne le retiens pas.
Pourquoi? Alors, vous l'éliminez? Pourquoi?
Parce que pour moi, le télétravail, je vais être honnête, moi, ce qui me surprend en soi, ce n'est pas le télétravail, c'est la manière dont les jeunes aujourd'hui les réclament. Aujourd'hui, tu reçois un candidat, il n'a même pas commencé, il ne connaît ni l'équipe, des fois même pas le métier.
C'est vrai, ouais.
Même pas le métier. Tout de suite, il y a combien de jours de travail? Mais à quel moment c'est devenu la priorité? Quand tu débutes...
En fait, c'est
moi,
devenu quasiment un acquis social.
Oui, il a totalement ça. Raison, là.
C'est vrai.
Mais ouais. Au début, tu es censé apprendre, regarder comment
bien sûr.
Les autres, poser ouais. Des questions...
Ça peut venir dans un second temps.
Voilà, créer des liens, tout ça, ça se passe au bureau, c'est pas derrière une webcam. Après, encore une fois que tu es expérimenté, tu deviens un peu autonome, pourquoi pas négocier une journée ou deux? Mais là, c'est dès le début, j'arrive, eh ben écoute, moi, je vais... Pour moi, c'est simple, télétravail...
C'est téléglando, là.
Ouais, ça peut être un avantage. au début du carrière, mais au début d'une carrière, pour moi, la vraie richesse en entreprise, c'est la présence.
Oui, parce que si un jeune commence par faire du télétravail, il n'aura jamais vraiment l'expérience de travailler en équipe.
Moi, j'entends ce que dit Abdel, mais Abdel, en fait, ce que je comprends pas, c'est que vous pourriez expliquer ça aux jeunes quand ils vous demandent du télétravail, pour un peu leur cadrer en disant, écoute, tu vas déjà commencer à bosser, tu vas voir avec tes collègues, et puis on verra au bout de 6 mois si on peut faire du télétravail, et puis adapter. Et puis surtout, il faut que tu aies un lieu de télétravail qui soit faisable. Moi, ma boîte, quand on faisait du télétravail, elle vient chez toi regarder si t'as position ergonomique, si t'as la connexion internet qu'il faut et tout. En fait, c'est ça le télétravail. C'est pas uniquement, tiens, j'en veux, tu vois.
Mais je crois que vous vous rendez pas compte que ça va beaucoup plus loin. Moi, aujourd'hui, c'est des personnes qui vont du télétravail pour adapter, en tout cas, leur vie privée. Moi, j'ai des personnes qui me disent, je dois aller récupérer ma gamine à 11h30 à la cantine. Ah, 11h30, et si je te mets un call, moi, à 11h30, et qu'on a une réunion client, comment on fait? Il est là, le problème, aujourd'hui. C'est pas possible. Tu mets la gamine à la cantine...
Mais c'est-à-dire, Adèle, c'est vrai que avant, quand on négociait un contrat, on s'intéressait surtout à l'argent. Bah oui. À combien tu dealais, combien tu négociais. Maintenant, c'est moins l'argent que le télétravail. Donc, si je comprends bien, c'est ça. C'est le confort. Le confort.
Je pense qu'il faut aller doucement. On va pas faire de généralité.
On va pas se mentir. Il y a des gens pour qui le télétravail, c'est des jours de semi-repos.
Voilà. Absolument. Entièrement d'accord.
C'est ça. Mais là aussi. Je pense qu'il faut faire du cas par cas. On peut pas globaliser. Il faut faire du sur mesure. J'ai des gens vraiment qui sont en télétravail et je sais pas s'ils m'écoutent et je peux vous dire que ils en font 10 fois plus que s'ils étaient en présentiel parce qu'ils sont hyper impliqués.
Ils sont productifs.
Tu peux écouter. Il y en a que j'ai eu, c'était pas le cas quoi.
Oui, mais là, ce que nous dit Adèle, c'est très intéressant, c'est que. Maintenant, c'est considéré comme un acquis social.
Tu viens en disant,
si j'ai pas de télétravail, moi, je viens pas bosser chez vous. C'est vraiment là.
Et c'est que le début.
Donc, ça veut dire quand même que pour les gens, le télétravail, c'est plus sympa que de bosser avec les autres.
Ça veut dire.
Et on est quand même dans un monde. Je suis désolé, dans une génération très tournée sur elle-même, où le collectif, ça devient secondaire.
Ouais, où on s'occupe de ses enfants.
C'est des jeunes diplômés.
Non, mais non. Plaisir à leur faire déjeuner.
Des jeunes diplômés qui veulent plus faire d'enfants, mais tout ça, c'est faux. C'est des jeunes diplômés qui ne veulent plus faire d'enfants. Ces jeunes ne veulent pas faire d'enfants puisqu'on a un problème de natalité. Ils veulent rester à la maison. Ils veulent leur petit bonheur personnel. Le collectif, on s'en fout d'une manière générale. C'est une génération d'égoïstes.
Le plus dangereux, Olivier et Flora, c'est qu'on va peut-être vers une génération qui souhaite produire et consommer sans sortir de chez elle.
Ça
devient dangereux, produire et consommer. Ouais, ils télétravaillent et ils appellent Uber Eats pour commander à bouffer.
Je vais poser la
génération cocooning.
Je voudrais poser la question à Adèle. Adèle, justement, quel est le profil de ces jeunes? Est-ce que ce sont des jeunes qui sont jeunes parents ou pas, justement, pour s'occuper des leurs, de leurs enfants ou pas?
Alors, ça dépend. Il y a des jeunes parents qui, eux, vont parler des enfants et le fait qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir s'en occuper s'il n'y a pas au moins... Alors en plus, le paradoxe maintenant, c'est que...
S'occuper pendant le travail, quoi.
Limite, quand on refuse ça et quand on leur explique que ce n'est pas possible, le paradoxe, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, le monde du travail, c'est que ça devient l'entreprise qui devient louche. C'est nous, aujourd'hui, qui devenons... On doit se remettre en question. Et moi, je veux parler d'un point aussi important, c'est la fracture que ça peut créer entre ceux qui n'ont pas le luxe de pouvoir avoir des métiers qui nécessitent du télétravail. Oui. Moi, je sais que j'ai des agents logistiques, j'ai des techniciens IT, mais j'ai aussi des personnes qui font du recrutement et de la conduite d'activité. Ils peuvent travailler au même endroit. Je suis désolé, le mec qui se lève tous les matins à 6h30 pour faire 1h30 de transport et venir porter des cartons, il dit putain, là, je suis monté à l'étage tout à l'heure au niveau administratif. Il a la chance, lui. Ça fait 3 jours qu'il est chez lui. Donc ça aussi, faut le voir. Socialement, ça crée une fracture. Je suis désolé.
Oui, c'est ça. Dans la boîte, ça peut créer un malaise aussi en disant il y a ceux qui sont. T'as besoin d'un renseignement. Ben non, il est pas là. Il est en télétravail. Ben on le voit nous aussi.
Moi,
d'ailleurs,
Adèle, je cherche du boulot. Je rêve d'être salarié. Je veux pas de télétravail. Je rêve des congés payés. Je rêve des arrêts maladie ou des congés maladie. Je rêve des RTT. Je rêve d'avoir un comité d'entreprise. D'avoir des jours de congé comme ça à droite à gauche en fonction de ce qui m'arrive dans la vie. Je rêve d'avoir des crédits faciles en banque parce que j'ai une fiche de paye. Je rêve d'avoir une mutuelle qui m'est payée. Donc voilà, je cherche aujourd'hui à être salarié.
Télétravail, c'est un sujet.
Voilà, donc si vous avez des pistes, vous me dites parce que c'est le rêve de ma vie aujourd'hui. C'est le rêve de ma vie.
Non, parce que Mourad, il peut faire son homologue, mais tous les bourgeois comme Mourad, qui ont acheté une maison dans le Perche et puis qui disent moi je vais le télétravailler le vendredi et le lundi, comme ça je suis dans la maison dans le Perche. Il y en a quand même.
Je vais te donner une information que tu connais pas, et ça va être un scoop.
Le Perche, hors de question.
Pour en arriver là, il faut avoir fait beaucoup de sacrifices. J'ai pas gagné au loto.
Non, mais c'est bien ce que j'ai, mais voilà. Moi, je peux pas nous dire. Moi,
ce que je vois, il y a une génération qui a pas gagné au loto.
Oui, mais t'as des cas supérieurs.
Il y a une génération qui a pas gagné au loto,
et qui malheureusement. Les jeunes, machin, les jeunes, ouais, mais les cas supérieurs, ils sont bien contents le vendredi et le lundi d'être dans leur maison du Perche à siroter.
Alors, c'est vrai qu'il y a un problème de logement.
En faisant un petit peu de piscine.
Moi, je trouve que l'un des arguments intéressants.
On y arrive quand notre train, il arrive à l'heure.
Non, mais l'un des arguments pour être travailleur
électrique,
c'est de pouvoir effectivement vivre ailleurs, parce que t'es, au lieu de vivre dans un petit appart de centre-ville, ça te permet d'aller, de sortir du centre-ville.
Non, alors, peut-être, contre, on peut envisager une semaine de 4 jours. Moi, ça me choque pas.
Dans un instant, on sera avec.
C'est plus concentré.
On sera avec Michael du côté de la Seine-Maritime. Il est cadre supérieur. Justement, il va nous expliquer comment ça se passe, son télétravail, puisque là, et ce que nous disait Adèle il y a un instant, et je remercie d'avoir été avec nous. En fait, on a deux France là qui sont en train de s'affronter au 32-16. La France qui peut se permettre le télétravail, et puis la France qui ne peut pas se le permettre.
Les éboueurs, les pauvres, le chauffeur de taxi peut pas.
C'est extraordinaire, quoi. D'exiger de pouvoir rester chez soi pour travailler, quoi. On continue. Un jeune sur deux qui refuse des emplois s'il n'y a pas de télétravail. 32-16 pour en parler avec nous. Michael, bonjour.
Bonjour.
Cadre supérieur. Est-ce que vous comprenez ces jeunes qui refusent un emploi s'il n'y a pas de télétravail?
Eh bien, en fait, je trouve ça normal que les enfants fassent ça, parce qu'on leur apprend ça premièrement à la fac. D'abord, il faut partir déjà d'un premier contexte, c'est de dire que ce qui est absurde, c'est de dire le chauffeur de taxi a droit au télétravail, lui non. Effectivement, on enlève une partie de la population qui n'y a pas le droit. Ça sert à rien de les opposer, c'est dans le contexte du travail. Si je choisis d'être chauffeur de taxi, évidemment, je ne peux pas faire de télétravail.
La partie absurde, manuel, hein.
elle est enlevée. Mmh. Maintenant, sur tout le restant, tous les gens qui y ont droit, eh bien, il n'y a pas de... Les gens ne sont pas tous des feignasses chez eux, en carton, que ça se passe, quoi. Je veux dire, moi, je fais du télétravail en home office, donc en total télétravail, je dirais, depuis 2017.
Télétravail ?
Pardon ?
Tous les jours, vous êtes en télétravail ?
Tous les jours, je suis chez moi.
Après, actuellement, vous êtes en télétravail,
donc. Je vais voir des clients, j'ai pas mal de choses à faire.
Ah oui, vous sortez quand même de chez vous, de temps en temps.
Oui, je reste pas que chez moi. Mais effectivement, le bureau qui est en région parisienne, à la Défense, j'y vais peu de temps. J'y vais une fois par mois quand j'ai des dossiers importants ou des choses à revoir.
Ah oui,
mais on travaille tous les jours. Je veux dire, on a quelque chose de très organisé, très cadré. J'entendais au début de cette intervention les augmentations, la visibilité. Mais il n'y a pas de souci. Moi, je suis augmenté tous les ans. Tout va très bien. Les résultats sont faits. C'est managé au résultat. On a des appels téléphoniques, je dirais, toutes les semaines avec sa hiérarchie. C'est plutôt...
Est-ce que vous n'avez pas l'impression... Si vous avez un intéressement, c'est pas la même chose.
Si vous avez un intéressement, c'est sûr que ça
redistribue les cartes.
Mais bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression...
faire du télétravail s'il est payé un intéressement, c'est sûr.
Michael,
je
voudrais juste poser une question à Michael. Est-ce que vous avez l'impression d'être un salarié privilégié?
Oui. Oui, mais tous les salariés dans mon entreprise, il y a 1000 personnes en France, 6000 à l'international, aujourd'hui, ont la possibilité de faire du télétravail 3 jours par semaine pour ceux qui ont besoin d'aller au bureau. Mais s'ils le souhaitent, il y a aussi la prise en compte des risques.
En fait, vous voyez jamais vos collègues.
Bah si, je les vois une fois par mois ou par téléphone. Ou par
et ça suffit.
Oui, par téléphone.
Juste un petit bémol sur le télétravail, c'est la mondialisation du travail aussi. C'est ce qui explique que des fois, on appelle un service après-vente, on en a qu'au Bangladesh.
Il
est payé 150 euros par mois.
Je voudrais qu'on écoute le témoignage de Jérôme, parce que de la Seine-Maritime, on va aller du côté de la Loire-Atlantique, c'est-à-dire de la Normandie, on va vers Nantes, si je regarde bien la carte.
Oui, c'est ça.
Mais là, on est à Pornichet précisément. Bonjour Jérôme.
Bonjour. Bonjour
les GG. Je vous repose la question. Un jeune sur deux qui refuse des emplois sans télétravail, c'est un caprice ou ils ont raison?
Je pense que c'est plus compliqué que ça. D'abord, le télétravail, ça a existé depuis très très longtemps. Hein. C'est juste les moyens technologiques qui ont changé. Moi, j'ai une copine qui a été télétravailleuse pendant 20 ans. Mais justement, c'est là où aussi, moi, je voulais mettre en garde les jeunes. Moi, je suis un ancien chef d'entreprise, mais j'ai été salarié pendant 10 ans. J'ai eu ma boîte pendant 20 ans. Aujourd'hui, je me consacre plutôt à aller aider des jeunes chefs d'entreprise, à aller intervenir en école de commerce ou en Bac plus 2 ou choses comme ça. Et là où je dis il faut pas se gourer, c'est que vous avez deux systèmes. C'est-à-dire que soit vous avez quelque part une ambition, vous voulez faire un développement personnel, encadrer des équipes, etc. Et là, dans ce cas-là, franchement, le télétravail, les absents ont toujours tort. C'est-à-dire que dans les boîtes, ceux qui ceux qui ont les postes, c'est quand même ceux qui sont sur le pont. Et comme je disais à un de mes fils, je dis bah écoute, t'as deux choix. C'est ou tu vas faire le télétravail et puis bah t'en profiteras pour faire ta lessive, ton ménage, ton repassage. Ou tu taffes et tu gagnes des sous et tu paieras quelqu'un pour le faire. Mais le choix, il est aussi simple que ça. Et de l'autre côté. Et donc je mets en garde aussi, parce que quand il y a une charrette dans une boîte ou chose comme ça, bah c'est ceux qu'on voit jamais, c'est ceux qu'on voit pas, c'est ceux-là qui dégagent en premier.
On est d'accord.
Et ce que je disais tout à l'heure sur les augmentations.
Et retrouver du taf, c'est une autre paire de manches derrière, là c'est beaucoup plus compliqué.
Ouais, surtout si tu es en télétravail et qu'après tu arrives dans la prochaine boîte, ça fait pas la même chose.
Je pense que c'est à chacun aussi d'être honnête avec ce qu'on veut, c'est-à-dire que soit vous voulez juste encadrer une souris d'ordinateur, et pas de problème, il y a plein de jobs où le télétravail, ça le fait très bien. Et puis, il y a plein d'entreprises qui sont contentes d'avoir effectivement des collaborateurs répartis sur tout le territoire, chez eux,
etc. Jérôme, pour l'entreprise.
Ouais, mais est-ce que vous pensez pas que ça risque de tirer les salaires vers le bas, justement, pour les cadres, en disant, écoutez, télétravail, ben finalement, puisque vous serez chez vous, je vais vous payer, un petit peu moins, alors je vais prendre en charge votre ordinateur et autres.
Alain, ça va au-delà de ça.
Allez-y, Jérôme,
clairement.
Pardon.
Et puis, celui qu'on connaît pas, qu'on voit simplement en visio de temps en temps, le jour où il disparaît du paysage, bon, c'est moins sensible. Quand vous êtes chef d'entreprise, encadré des dizaines de types et de nanas, et que vous devez vous séparer d'un cadre, et que le cadre, bah, il a une vraie, je vais pas dire emprise, mais une vraie influence sur ses équipes, etc., vous réfléchissez aussi à deux fois.
Oui, parce que vous savez, Jérôme, là, parce que là, je regardais vite fait pendant la pause, là, sur mon portable, il y avait un gars qui était en télétravail et qui gérait des personnes elles-mêmes en télétravail. Tu vois, c'est-à-dire, c'était un chef d'équipe dans une grosse société américaine. Il avait 60 personnes sous ses ordres, mais 60 personnes qui elles-mêmes étaient en télétravail, à travers les États-Unis. Oui, donc, en fait, c'est des gens qui ne se rencontraient jamais une fois par an en séminaire et qui étaient tout le temps en visio, quoi. Enfin, non, on va quand même vivre une espèce de drôle de monde. Allez-y,
Jérôme. On est hypocrite parce que ça fait quand même des années que, par exemple, moi, il y a quelques années, j'étais chez Free. J'appelais Free dans les années 2006-2007. C'était quelqu'un qui était de l'autre côté de la Méditerranée qui me répondait. Donc ça fait des années que les patrons ont imposé le télétravail, mais d'une autre façon, tu vois. Mais donc à un moment donné, on va pas non plus être hypocrite. Voilà, donc
après, c'est peut-être
moi, ce que je voulais dire surtout, c'était au niveau des jeunes qui veulent, parce qu'il y a quand même encore, j'espère, dans ce pays, des gens qui veulent s'épanouir professionnellement, avoir des carrières. Faut pas se mentir, gagner des sous pour avoir la belle vie, etc. Je veux juste mettre en garde les jeunes, s'il y en a qui nous écoutent en télétravail depuis chez eux, attention quand même, parce que il y a pas à tortiller, faut pas oublier que la progression professionnelle, l'épanouissement professionnel, ça se fait par l'implication, et je pense malheureusement que l'implication, vous voyez, moi j'habite sur la côte. Je suis allé marcher là de bonne heure et qu'est-ce que je vois dans l'eau, vous avez des types en train de faire du kite, en train de faire du surf, etc. Bah, je peux vous dire qu'il y a 5 ans ça n'existait pas. En semaine, ça n'existait pas.
Ils sont tous en télétravail. Donc,
mais non, c'est vacances scolaires, détendez-vous aussi.
Arrêtez un peu, bien sûr.
Les boomers.
Mais ce que dit Jérôme, c'est que. En fait, tout dépend ce que tu veux. Mais c'est vrai que si tu penses vouloir pouvoir faire carrière, progresser en étant en télétravail, ça marche pas, à mon avis.
Sauf si on modifie la base d'un contrat de travail. Effectivement, si on est sur un contrat de travail avec un intéressement, moi j'ai eu des commerciaux qui étaient en télétravail. Oui, j'étais pas inquiet parce que je savais que s'ils faisaient pas leurs chiffres, ils le ressentaient sur leur commission. Là, il y a pas de souci avec le télétravail. Donc c'est peut-être ça qu'il faut revoir à un moment donné pour les gens qui sont en télétravail. Et là, on est tranquille.
Attendez, Jérôme, parce que vous mettiez en garde les jeunes. On a Solène qui est avec nous, qui est du côté de la Vendée, qui est référente technique et qui est en télétravail 4 jours sur 5. Bonjour Solène.
Bonjour.
Et donc vous auriez pu refuser un job si vous n'aviez pas eu le télétravail ?
Alors, je pense pas que je refuserais un job parce qu'il n'y a pas de télétravail. Mais le télétravail est un attrait aujourd'hui sur une annonce en fait.
Et qu'est-ce que vous faites en télétravail ?
Alors, moi, je gère une équipe, en fait, de 15 conseillers, en binôme avec une autre personne et avec une responsable. La responsable, elle, est sur site, elle fait du, t- continue télétravail de temps en temps, mais nous, avec mon binôme, oui, on est en télétravail, et l'équipe aussi, en fait.
Donc vous dites un binôme, mais vous le voyez jamais, enfin vous le voyez par visio.
Une fois par semaine, je la vois, en physique.
D'accord.
Je vais tous les mardis. Et puis après, on se parle toute la journée par Teams. On échange sur les questions qu'il y a de nos conseillers, de ce qu'on a à faire.
Mais ça veut dire qu'eux-mêmes sont en télétravail.
Oui, mais tout le monde est en télétravail.
Oui, mais sur des conseillers, il y a une part de fixe.
En télétravail.
Mais vous avez une part de fixe et de variable, j'imagine.
C'est fou, ça.
Pardon, j'ai pas entendu.
Vous avez une part de fixe. Enfin, vous et vos collaborateurs ont une part de fixe et de variable.
Non, en fait, on a un salaire.
Ouais.
Qui est fixe. Et après, on a une prime sur objectif.
Ah ben voilà, c'est
pour
variable.
Ça qu'en télétravail, c'est bien ça, on fait tout autant que sur site. Moi, personnellement, j'arrive à mieux me concentrer en télétravail parce que je suis dans mon bureau, je n'ai personne qui parle autour parce que c'est un open space.
Oui, ça, c'est
ils
sûr.
Sont en appel bah, entrant, donc en fait, ils gèrent un flux d'appels énorme.
Ça,
et des fois, en fait, on est plus attiré par la personne qui parle à côté avec quelqu'un au téléphone, un client au téléphone,
ouais,
que par ce qu'on fait.
Et quels sont les avantages du télétravail dans votre quotidien, expliquez-nous.
Et ben, par exemple, à la pause de midi, j'ai ma pause de 45 minutes. Je peux mettre la machine à laver en route, je peux faire la
vaisselle. Vous appelez les grandes gueules le jeudi matin aussi.
Exactement, exactement. J'ai pris ma pause, je me suis mis en pause, mon binôme est au courant et je peux vous appeler et je vous écoute toute la matinée.
Et
en fait.
Ça vous permet aussi de vivre là où vous voulez, de ne pas être lié à un lieu de travail.
Oui, c'est ça. Parce que moi, je suis à 40 minutes de mon lieu de travail.
Ça aussi.
Donc, ça fait à peu près une heure et demie par jour de route. Je l'ai fait, hein, puisque moi, j'ai embauché en janvier 2020. Et en mars 2020, en fait, on a été obligé de se mettre en télétravail forcé, dû au Covid.
Oui, c'est forcé.
Et votre époux, et votre compagnon,
il est en télétravail aussi. C'est...
Ah non, pas
il
du
se voit jamais.
Il est chauffeur routier et je pense qu'il vous écoute. Donc, je vais faire un
bisou. Comment s'appelle-t-il?
On l'embrasse.
Rudy.
On en passe. Alors, Soleil, moi, j'ai une question d'ordre personnel. Et il n'y a pas du tout de jugement dans ma question. C'est, est-ce que ça vous manque pas, de pas voir des gens, physiquement, en vrai?
Non, pas forcément.
Non, mais je vous pose la question.
Non, mais ça dépend du caractère de chacun. Je sais que j'ai des collègues qui sont restés sur site, qui restent tous les jours sur site, parce que eux, ça les intéresse pas.
D'accord.
Voilà.
Moi, je suis sûr. Une petite question personnelle, et soyez sincère. Est-ce que des fois, vous en profitez un peu pour faire autre chose?
Pendant le télétravail.
À part écouter GG, bien sûr.
Allez-y, réponse sincère.
Oui. Des fois, je vais mettre la machine en route, mais c'est jamais des gros trucs.
Oui,
je pars pas de chez moi.
La machine en route, ça va.
30 secondes. Non.
Vous regardez pas une série.
Elle regarde les GG.
Mais comme au bureau, parfois, ça nous arrive tous de scroller sur un peu sur les réseaux sociaux ou de faire une recherche. Toi, je te vois, tu scrolles à toutes les pubs. Et t'es au travail.
Mais c'est pendant la pub.
Ah, la pub, c'est la pause. Ah, bah, il y a beaucoup de
choses.
Moi, ce
que je viens, c'est ça.
Merci, Solène, du témoignage.
C'est bien le télétravail. Parce qu'Anaïsène, ça pourrait ne plus voir vos deux têtes à tous les deux et celle de Gerbier serait peut-être heureuse d'être en télétravail.
Alors, si je ne vois pas Anaïsen, c'est Louis Gerbier tous les jours, je serais malheureux.
Un jeune sur deux refuse les emplois sans télétravail. Est-ce que c'est logique? C'est la nouvelle génération? Ou est-ce que c'est un caprice? Est-ce qu'ils ont raison ou c'est un caprice? Et je vous remercie tous d'avoir été en direct avec nous pour partager vos expériences. Est-ce qu'ils ont raison? Non, vous dites à 61%.
C'est moins
radical. Oui, mais il y a quand même
40%.
Il y a 38%.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
le meilleur des grandes gueules.
Sophie Binet veut faire du 8 mars un jour férié. La secrétaire générale de la CGT veut faire de cette journée qui célèbre la lutte pour les droits des femmes une nouvelle journée chômée et rémunérée comme celle du 1er mai. Voilà son argument, l'un de ses arguments. On a 11 jours fériés en moyenne en France contre 12 en Union européenne, donc on peut en avoir un de plus. Est-ce que c'est une bonne idée? Pour l'instant, une idée qui a été écartée par le gouvernement. Faire donc du 8 mars journée de la femme, une journée qui serait chômée, rémunérée comme celle du 1er mai. Le 32-16 pour intervenir, Zora Bitan, je m'adresse tout d'abord aux femmes, même si cette journée serait fériée pour tout le monde.
En fait, c'est pas la journée de la femme. Vous pouvez changer le bandeau en régie parce que c'est la journée internationale des droits
des femmes.
Et alors, c'est la journée de la femme, vous allez nous offrir des aspirateurs, c'est insupportable. Et c'est la journée internationale des droits des femmes, commencez par le dire.
C'est ce que j'ai dit.
Par dire, non, là, il y a écrit la journée de la femme et je suis pas contente.
D'accord. Mais sur le jour férié, est-ce que tu es contente ou pas?
Non, mais je laisse la parole à Zora, je voulais pas la couper. Il est 9h02, je vais pas commencer.
C'est trop tard, bien commencé.
Non, mais voilà, on a affaire aux appauvrisseurs de la société, aux appauvrisseurs de la France. Rajouter une journée fériée pour une cause qui devrait être 365 jours de l'année. Les droits des femmes, c'est pas un jour, c'est pas à la carte, c'est pas quand on y pense, c'est tout le temps. Et je vois que la CGT, voilà, elle est toujours aux avant-postes de appauvrir le pays, faire en sorte que les gens travaillent le moins possible et créent le moins de richesses, pour demander à côté le plus de solidarité, le plus d'aide sociale, le plus de protection des gens les plus faibles, et à côté de ça, le moins de gens qui produisent de la richesse. Donc c'est vraiment du grand n'importe quoi, ça apportera rien du tout, ça produira rien du tout pour le droit des femmes. Donc pour moi c'est nec.
On n'a pas besoin de cette journée.
Mais c'est du cégétisme, mais vraiment pourri comme on en a marre. Voilà, c'est exactement ça.
Flora.
Ben, à part que c'est la journée internationale des droits des femmes et qu'elle est fondamentale en France et partout dans le monde pour remettre à l'agenda, au cœur de l'agenda, les sujets droits des femmes, sachant que les femmes sont toujours moins payées que les hommes, on n'est pas du tout arrivé à l'égalité et que c'est pas demain la veille qu'on sera à l'égalité, je suis pas sûre qu'une journée chômée, ça aide. La preuve, quand les jours sont fériés là au mois de mai, on sait pas très bien. Par exemple, est-ce que vous êtes capable de me dire c'est quoi la symbolique de tous les jours fériés? Bon, ok, le 1er mai, c'est la fête du travail. Bon, ok.
Bah, si, quand même.
Bah, je suis pas sûre.
Le 8 mai, c'est la capitulation allemande.
L'ascension, c'est le 14 mai, la preuve.
Non. Alors, le 15 août.
Oui.
Alors, c'est l'ascension. 15 août, c'est quoi?
C'est l'ascension. C'est bien. C'est ça.
Le 25 décembre.
Le 14 août.
C'est Pâques.
Le 15
décembre. Le 14 juillet.
Voilà,
c'est Noël.
Donc
c'est Noël.
Déjà, si on était capable de connaître la symbolique.
Le 11 novembre, c'est Pâques.
Je pense que si on demande aux Français dans la rue, micro-trottoir, c'est quoi le 8 mai pour vous, je pense qu'il y a 75%.
Est-ce qu'on pourrait pas supprimer le 8 mai et le remplacer par le 8 mars?
Bah, ce serait encore ouvrir un autre débat, pourquoi pas.
Non, mais ouais. Si on veut pas de jours supplémentaires,
mais c'est même pas la question du droit des femmes, c'est de férier un jour. C'est une grosse hypocrisie, c'est une carotte monumentale. Le droit des femmes, c'est toute l'année dans l'agenda transversal de tous les ministères.
La journée de la femme, c'est toute l'année.
Des droits des femmes.
Tu fais exprès, c'est pas possible. Et je vais vous dire, politiquement, la CGT fait un cadeau à LFI, parce qu'il y a LFI qui a proposé d'ajouter des jours fériés au calendrier. Et donc la CGT les aide à amplifier leurs propositions. Encore une fois, LFI est hégémonique à gauche parce que c'est les seuls qu'on entend proposer des choses. Et ça, c'est un gros problème. Et ça, c'est un gros problème pour le reste de la gauche. Bah, il n'empêche que c'est une proposition. Qu'on soit d'accord ou pas.
Ils la font pas, c'est pareil.
Qu'on soit d'accord ou pas, LFI propose des choses. VS le reste de la gauche qu'on n'entend pas.
Alors, c'est vrai que les jours fériés, c'est toujours un sujet tabou en France. Par exemple, François Bayrou, souvenez-vous. Lorsqu'il était Premier ministre, avait proposé la suppression de 2 jours fériés et ça avait été une bronca générale. Alors, il n'est pas tombé à cause de ça, mais enfin, ça n'avait pas aidé à son maintien à Matignon. On voit que c'est un sujet sensible, les jours fériés. Alors, en rajouter, c'est peut-être plus simple qu'en supprimer, Charles Consigny.
Écoutez, sans vous surprendre, hélas, je ne m'exprimerai pas en soutien de ce jour férié pour la journée de la femme. Je fais exprès pour agacer Flora.
Je sais pas pourquoi ça l'agace.
Les droits des femmes.
Pourquoi ça m'agace? Parce que désolé, je vais te couper à ton tour.
Je t'en prie.
Parce que ça voudrait dire que donc 364 jours par an, c'est la journée de l'homme et un jour par an, c'est la journée de la femme.
Ça s'appelait comme
déjà,
ça.
Déjà, ça n'aurait aucun sens. Ensuite, l'enjeu, c'est pas de célébrer les femmes du tout. Personne n'a demandé à ce qu'on nous célèbre. L'enjeu, c'est de mettre à l'agenda, les intérêts politiques à l'égalité femmes-hommes. Et, malheureusement, si on n'a pas une journée pour sacraliser le sujet,
les
sujets passent vite à la trappe.
Parce que c'est pas.
Non.
Voilà, donc honnêtement, là, c'est. Enfin bon, c'est la CGT qui propose ça.
Oui, tout à fait, c'est Madame Binet.
Oui, mais Madame Binet.
Pour l'instant, le gouvernement a dit non.
Madame Binet a
ça,
pas. Enfin bon, je. À part se prendre pour Mitterrand avec ses chapeaux et ses écharpes.
Non, mais elle dit par exemple qu'il y a 11 jours fériés en moyenne en France. C'est vrai, il y a 11 jours fériés en France. Contre 12, si on prend la moyenne, en Union Européenne. Enfin, 12, ça veut dire qu'il y en a qui ont plus, d'autres moins. Donc elle dit, on pourrait en avoir un de plus, on serait dans la moyenne européenne.
On peut mettre le 24 décembre aussi, histoire de préparer Noël. Et
en fait...
On pourrait faire des jours sans la CGT.
Le problème, c'est que dans le même argumentaire, elle dit qu'on a un problème de salaire en France, qu'il faudrait augmenter les salaires. Alors, c'est vrai que c'est bizarre de demander moins de travailler.
Si tu bosses pas, je vois pas comment tu vas produire de la richesse. C'est ça qui est excellent avec la CGT.
Mais est-ce qu'on pourrait pas remettre à plat
avec la gauche en général d'ailleurs.
Oui, mais est-ce qu'on pourrait pas remettre à plat tous les jours fériés parce qu'on sait plus trop, comme le dit Flora, à quoi ça correspond.
Mais non, on a une histoire dans ce pays.
Il y a beaucoup de jours fériés qui sont liés à des fêtes catholiques, chrétiennes. Certains jours fériés qui sont liés à des fins de conflits, le 11 novembre, le 8 mai. Est-ce qu'on pourrait pas tout mettre sur la table?
Ouais, non.
Est-ce qu'il y en a trop, pas trop? Est-ce qu'on pourrait avoir un vrai débat sans que tout le monde s'énerve?
Non, moi je pense pas du tout. Je pense qu'on a autre chose à foutre pour dire les choses comme elles sont. Je pense qu'on a vraiment des priorités autres en France et que par ailleurs, effectivement, que les jours fériés soient liés à l'histoire catholique et l'histoire tout court de notre pays me paraît pas extravagant et on va pas là parce que la population a changé, parce qu'il y a moins de cathos, parce que sais-je, se mettre à créer des nouveaux jours fériés ou à les changer.
Mais
ce
qui est dingue, c'est que tout un pan.
Il y a d'autres religions.
Non, mais tout un pan de notre société, l'école, le niveau en maths, le pouvoir d'achat, il y a des sujets énormissimes. Et en plus, il y a une espèce de fâcheuse habitude de vouloir effacer ce que l'on est et effacer notre histoire. Et ça, c'est absolument insupportable. C'est-à-dire qu'on serait le seul pays au monde où on veut prendre... on efface, terminé. D'où vous venez, on sait pas. Non, c'est pas une évolution. L'histoire, c'est pas une évolution. L'histoire, c'est la mémoire. L'histoire, c'est ce qui nous enracine et c'est ce qui fait que nous sommes un peuple et un pays. Vouloir l'effacer et vouloir la garder, ce n'est pas ne pas avancer. Ce n'est pas ne pas évoluer. Ce n'est pas progresser. Ce n'est pas ne pas être moderne. L'histoire, c'est quelque chose que l'on transmet de génération en génération. Il y a énormément d'enfants qui participent au 11 novembre. Il y a énormément de gens au 14 juillet, etc., etc. À Noël, toutes les familles sont en fête, qu'elles soient croyantes ou pas. Qu'est-ce qui nous lie ? Alors, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire ? C'est-à-dire que tout ce qui fait peuple, tout ce qui fait commun, tout ce qui fait qu'on vit ensemble, eh ben, il y a des gens qui, par haine ou par rejet ou je sais pas pourquoi, voudraient effacer. Bientôt, on va nous dire peut-on continuer à s'appeler France ? Peut-on envisager de changer la couleur du drapeau ? Peut-on envisager de supprimer la commémoration de la libération ? Non, mais faut arrêter, quoi.
Moi, ce qui me chagrine,
Flora Gabali, toi, tu serais assez d'accord pour qu'on redéfinisse un peu les jours fériés ?
Alors, non.
Ceux qui sont utiles, ceux qu'on pourrait supprimer, en rajouter d'autres ?
Non, moi, je crois pas qu'il faille rajouter. Alors, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est les jours fériés. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait un jour un jour férié sur le calendrier musulman, un jour férié sur le calendrier juif, et un jour férié sur le calendrier catholique, parce que je suis pas suffisamment experte en religion pour décider lequel. En revanche, demander à des gens de choisir un jour férié sur les trois religions, donc Noël,
chaque religion aurait son jour férié.
Et ça, je pense que ce serait une marque de respect envers les différents cultes et aussi d'intégration, parce qu'on parle toute la journée d'intégration. Comment on intègre les différents cultes? Effectivement, le pays a changé. Évidemment, je respecte les jours fériés chrétiens, mais je trouve que ce serait bien.
Un jour férié pour les musulmans.
Surtout,
tu veux que je te réponde?
Attends,
après, tu vas répondre.
Ça aiderait surtout le pays à culturellement découvrir les fêtes des autres. Par exemple, l'Aïd, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est. Kippour, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est. Or, toutes les fêtes religieuses sont une richesse culturelle. Évidemment, on n'impose à personne.
Sans avoir un jour férié.
Le fait est qu'on en parle assez peu, alors que Noël, on en parle davantage, peut-être, parce que il y a plus d'ampleur. Bref, ceci dit, sur la question du travail,
Noël, c'est même
la CGT, c'est un syndicat. Vous savez à quoi ça sert, un syndicat? Ça sert à défendre les droits des travailleurs. Aujourd'hui, les droits des travailleurs, ils sont menacés par un nombre infini de facteurs. L'intelligence artificielle, la délocalisation, les GAFAM qui pillent nos données, qui pillent notre façon de travailler, qui pillent notre façon d'être. Et moi, je ne comprends pas que Sophie Binet, la CGT, nous parle de jours fériés, alors même que face à elle, elle n'a jamais eu autant de défis et d'enjeux. Je trouve ça terrible.
Alors, moi, je reste sur sa proposition, Zora. Est-ce qu'il faut rajouter un jour férié pour chaque religion? Alors, les musulmans, les juifs, peut-être pourquoi pas les bouddhistes
Non. Alors, d'abord, moi, je sais d'où je parle. Je suis née dans une famille musulmane. Et le fait qu'il n'y ait pas l'Aïd dans les jours fériés n'a empêché ni mon intégration ni mon assimilation. Ça ne change absolument
l'argument d'autorité de base.
Ça change rien. Factuellement, ça change. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans une société comme la nôtre, si tu fais que chacun à la carte prend sa fête, qu'est-ce que tu fais le 25 décembre pour les entreprises quand celles qui ouvrent qui
ferment, non.
Ça, peu importe.
J'ai
peu
pas
importe.
Dit ça.
L'assimilation et l'intégration, c'est quoi?
Pas de communautarisme dans les jours fériés, c'est ce que tu dis.
Déjà,
ça
ne produit rien. Regardez en efficacité. C'est-à-dire que moi, demain, si d'abord, l'Aïd, tu peux. Les enfants vont pas à l'école quand c'est l'Aïd. Il y a des circulaires et des règlements qui font que tu ne peux ne pas aller à l'école. Ça existe déjà, mais ça fait pas de loi et ça fait pas de jour férié. Et pourtant, c'est possible. Il y a des entreprises qui accordent des aménagements de travail quand il y a le Ramadan. La société est déjà organisée pour cette diversité. La vraie question, c'est pas celle-là. Elle est beaucoup plus profonde et beaucoup plus importante que celle-là. Parce que l'intégration, c'est quoi? C'est la formation, c'est le travail, c'est plus de discrimination, c'est l'ascenseur social, c'est tout ça. Donc, si tu fais pas tout ça et que tu fous un jour férié, ça changera absolument rien à ta vie.
Sur la question des discriminations, je pense que si on intègre, je pense que si on se met tous à respecter les fêtes des autres, il y aura plus de respect et moins
juste
de discrimination.
Ça, c'est une spécialité de la gauche, le pansement. Tu sais, le patch, ça fait 40 ans qu'elle fait ça, depuis SOS Racisme à aujourd'hui, sa grande spécialité, c'est je vous fous un jour férié et j'ai participé à l'intégration.
SOS Racisme fait plus pour l'intégration des minorités que toi.
J'en suis. Alors, je vais te dire voilà. Non, que alors, moi. Alors, tu connais absolument pas mon
alors,
parcours.
Attendez, attendez, Christelle,
toi, tu n'y es pas, moi, j'y suis encore. Christelle, moi, j'y suis encore avec les gosses dans les quartiers et dans la ruralité.
Christelle est
depuis l'âge de 16 ans, je ne l'ai pas quitté, ce quartier. Ces quartiers. Donc, je ne fais pas moins. Surtout qu'eux, ils ont fait beaucoup. Ils ont fait un carnage sur l'intégration et l'incrimination en fabriquant des nouveaux racistes.
Christelle est avec nous au 3216. Bonjour Christelle.
Oui, bonjour à tous. Vous allez bien?
Bien et vous,
oui,
en pleine forme?
Bien.
Oui, 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 très bien. Alors un gros bisou à Zora de la tribu.
Oui, merci.
Ah, vous êtes dans la tribu de Zora?
Oui, oui, oui.
Vous voulez en sortir?
Les 2000 premières. Non, jamais.
Dites-le nous, profitez-en.
Non, commence pas.
Et un gros bisou à Charles, lui aussi.
Et ben voilà. Bon, tu vas pas tarder à rejoindre la tribu Zora.
Mais moi, j'ai pas de bisous, moi.
Et faites un bisou à Flora aussi. Et à moi aussi, je suis un peu jaloux.
Je viens de dire un bisou à Flora, même si je suis pas toujours d'accord avec.
Et moi, pas de bisous, super.
Mais le plus important, c'est de s'embrasser.
Bon, Christelle, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau jour férié le 8 mars?
Mais non, pas du tout, pas du tout. Il faut arrêter. Moi, j'aimerais que des pseudo-féministes comme Madame Binet s'occupent plus de combattre pour les femmes afghanes qui ne veulent plus porter le voile. Pour nous, au niveau travail, qu'on ait salaire égal à travail égal. Voilà, pour des choses vraiment importantes. Un jour férié en plus. Mais quand est-ce que la France, elle va bosser? Parce que alors on met un jour férié pour machin, on met un jour férié pour bidule, mais on s'en sort plus. On s'en sort plus. Moi, j'ai été licenciée. Je me retrouve malheureusement au RSA à devoir soigner mon cancer du sein. Je m'en sors pas. Voilà. Je suis dans un bordel pas possible. Et là, on va nous pondre un jour férié pour la journée.
Dans votre situation, ce qui est bien, c'est que même dans votre situation, vous avez un certain sens de l'intérêt général en disant un jour férié, il faut absolument créer de la richesse. Ça sert à rien. Ben ça, c'est beau.
Merci Christelle. Pas de jour férié pour Christelle, en tout cas le 8 mars. La question a été posée également sur le compte X des GG. Petite consultation rapide pour savoir si vous voulez de ce jour férié proposé par Sophie Binet. La journée de la femme doit-elle devenir fériée? La journée consacrée aux droits des femmes doit-elle devenir fériée? Eh bien, vous dites non à 84%.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
C'est un acronyme auquel vous vous êtes maintenant sûrement familiarisé, la DGCCRF, la Direction Générale des Contrôles et de la Répression des Fraudes. C'est le bras armé de contrôle de l'État. Ils ont pris 650 références qui sont vendues sur les plateformes Chine, Temu, AliExpress. 46% des produits sont testés dangereux, 75% sont non conformes. Et par exemple, les sèches-cheveux, 73% sont considérés comme dangereux. Non, pardon, 73% des produits pour la coiffure sont considérés comme dangereux avec des sèches-cheveux ou des lisseurs qui présentent des risques d'incendie. Alors, est-ce que vous allez arrêter d'acheter, oui ou non? Avant d'en discuter avec vous, les GG, on va aller au 32-16. C'est Émilie qui est là, qui est infirmière. Bonjour Émilie.
Oui, bonjour à tous. Ben déjà, merci pour cette prise d'antenne parce que j'ai essayé plusieurs fois de vous joindre quand vous parliez des infirmières, etc. Mais j'ai jamais réussi. Donc, merci de me prendre aujourd'hui pour un autre sujet.
Ben, je vous en prie. Il y avait pas de censure. Hein. C'est pas voilà. C'est simplement il y a toujours beaucoup de monde qui nous appelle au 32-16. Et c'est pour ça. Alors, Émilie, est-ce que vous êtes étonnée par ces tests? Est-ce que vous achetez? Vous allez y renoncer? Dites-moi.
Alors, en fait, j'achète pas forcément les cosmétiques sur les sites que vous venez de citer. En revanche, il y a un truc qui m'énerve particulièrement, c'est que si vous allez à Action, normal, si vous allez à Lidl, vous trouvez les mêmes cosmétiques et pourtant, ça passe à l'as, enfin, personne n'en parle, c'est la même chose.
C'est la, en fait, exactement les mêmes produits, vous avez vérifié?
Ben, j'ai pas vérifié, mais quand vous avez un vernis à ongles qui coûte 50 centimes à Lidl, excusez-moi, mais enfin, j'ai peu de doute quand même que le truc, il soit pas nocif, quoi. C'est, les lisseurs, c'est pareil. Vous allez, enfin, je sais pas si vous êtes déjà à la normale, mais vous allez à normale, vous avez des lisseurs, vous avez des sèches-cheveux, vous avez plein de produits comme ça. Enfin, c'est la même chose.
Mais donc, vous achetez sur les plateformes ou pas, Émilie?
Moi, je n'achète pas de cosmétiques sur les plateformes. J'ai de la chance de pouvoir me payer des cosmétiques un peu plus, enfin, un peu, qui respectent un peu plus la nature et qui sont un peu meilleurs pour la santé.
D'accord.
Mais je sais qu'autour de moi, dans mon entourage, malheureusement, j'ai des personnes qui ne peuvent pas se le permettre et qui donc achètent régulièrement sur ces sites.
Voilà, ce que vous dites, c'est qu'il y a un deux poids, deux mesures. Quand on est dans une belle enseigne, enfin une enseigne connue qui a pignon sur rue, on est moins, peut-être moins regardant que quand c'est sur les plateformes chinoises. C'est ce que vous dites.
Non, pas du tout. Oui, pardon. Oui, c'est,
non, c'est ça. On est moins regardant sur la dangerosité des produits. D'accord avec ce que dit Émilie?
Oui, absolument, mais il faut que les personnes qui nous écoutent et nous regardent comprennent quelque chose. Quand vous achetez un produit sur Shein, sur Temu, sur AliExpress à 2 €, ce que vous achetez, c'est votre sécurité que vous mettez en danger, c'est votre santé que vous mettez en danger. Et donc, en fait, il y a un truc que les gens comprennent pas forcément, c'est ce qu'on appelle les coûts cachés. C'est pas parce qu'un produit coûte 2 € qu'il coûte réellement 2 €. Il montre qu'il y a des fers à lisser, des fers à boucler qui sont très incendiaires, qui risquent d'incendier votre domicile. Si demain vous achetez un truc à 2 € mais que derrière votre maison prend feu, ben vous êtes perdant. Donc aujourd'hui, la question, c'est de faire comprendre à un maximum de personnes ce que sont les coûts cachés. Quand vous achetez des produits mais qui vous donnent un cancer, vous êtes perdant. Est-ce que vous préférez acheter un rouge à lèvres pas cher et avoir un cancer, ou acheter un rouge à lèvres plus cher et être en
mais
bonne
c'est une
santé
question de pouvoir d'achat
mais
aussi,
non, parce que la santé,
Flora,
c'est pas une question de pouvoir d'achat. La santé, c'est la première priorité des Français.
Donc,
et la
pas
santé
de rouge à lèvres, pas
et la sécurité
plutôt, alors.
Mais non, parce que en fait aujourd'hui le sujet, c'est vaut mieux acheter. Il y a des marques françaises éthiques, je vais en citer une, par exemple Yves Rocher. Yves Rocher, c'est pas Dior Beauté. Yves Rocher, c'est des prix qui sont quand même accessibles. La question, c'est pas qu'on doit acheter un cosmétique 80 €, c'est que entre 15 € et 2 €, il y a la vie des gens qui en dépendent. Donc c'est pas vrai que les Européens et les Français sont pas capables de faire des produits qui sont accessibles. La question aujourd'hui, c'est que on est en train de découvrir que la mondialisation nous met dans une concurrence qui est complètement déloyale et qui est surtout dangereuse pour nos consommateurs. Ouais, bah c'est ça le problème. Et donc tant qu'on comprendra pas, moi je les attends, les Bruno Retailleau et compagnie, qui nous parlent de sécurité toute la journée et qui sont même pas capables de protéger la sécurité des consommateurs. Quand on est attaché à la sécurité des Français, on fait attention. Et quand on est attaché au trou dans la sécu dont parle Charles régulièrement, on fait attention à ces sujets-là. Parce que ces sujets-là, ils mettent les gens en danger et ils causent beaucoup d'argent avec ce qu'on appelle les coûts cachés, qui est de
toi, tu n'achètes
payer
pas sur
pour
ces
les cancers. Mais
donc,
jamais de la vie.
Moi, je n'ai pas en rêve. Pas Chine, parce que j'achète pas de fringues, des choses comme ça. Par contre, moi, j'achète pas mal sur Temu parce que je bricole, je couds, je fais des bijoux, je fais des machins.
Mais
des
t'achètes
trucs.
Pas de produits cosmétiques
non,
ou électroménagers.
Le Roi Merlin, c'est une très belle marque française.
Non, mais alors, Le Roi Merlin, t'es gentil, mais ils me font pas des petites cordes pour fabriquer mes bijoux, ils me font pas mes perles de rocaille, ils me font pas mes pinces pour tenir mon tissu, ils me font pas mes ébats.
Il y a des très belles quincailleries dans Paris.
Je sais, écoute, j'ai ouvert un magasin mondial tissu, il a duré 6 mois, j'ai déposé le bilan. Donc, à un moment donné, je peux pas être aussi, il faut que je sois en face de la réalité du truc. Maintenant, là où je te rejoins complètement, c'est qu'on a le paradoxe sous nos yeux. C'est-à-dire que on a nos sociétés cosmétiques françaises qui sont assommées de normes et de réglementations. Pourquoi pas? On a nos agriculteurs qui sont assommés de normes et de réglementations, mais on laisse entrer sur le pays produits qui bafouent tout.
Mais là, on les contrôle et on dit ils sont dangereux. On ne peut pas les interdire.
Oui, mais regarde, Émilie, elle a tout à fait raison. Je suis désolée, quand tu vas chez Action. Moi, par exemple, je vais acheter mes produits ménagers chez Action. Ben, quand je vais chez Action et que je vois le rayon maquillage, mais je te mets au défi, on en prend un, on retourne et on lit ce qu'il y a écrit dessus. Quand tu vois que ta palette de 12 crayons pour les yeux, elle est à 3 balles, il y a problème.
il y a gros problème parce que ça doit être testé sur les animaux. Tu dois avoir des trucs dégueux dedans. Donc en fait c'est ça, c'est que les même si
oui, mais
on
c'est magasin du succès, c'est oui. magasin du succès parce qu'aujourd'hui effectivement c'est le pouvoir d'achat.
Mais
qui
je ne te dis, je ne te dis pas le contraire. Mais là où je rejoins Flora, c'est que dans ces cas-là, soit tu prends une décision drastique, c'est-à-dire que tu pars du principe que la santé publique prime sur pour certaines choses. Et je pense que le maquillage, on peut vivre sans maquillage et sans crème anti-rides. Donc soit on arrête ce genre de choses, soit dans ces cas-là tu libères aussi les entreprises françaises de toutes ces normes.
Charles.
Non, moi, en plus, je pense qu'il y a tromperie pour les consommateurs parce que en Europe, et c'est une bonne chose, on s'est habitué quand même à acheter des produits qui ont été contrôlés, normés, testés, qui répondent effectivement à un certain nombre de normes, et on achète un peu en confiance en Europe quand même. Et donc, si on va sur un site internet depuis la France, qu'on commande quelque chose et que ça nous est livré, normal, on se dit inconsciemment, ou enfin, on pense que nos pouvoirs publics ont contrôlé ce produit. Or, on s'aperçoit qu'en fait, c'est une espèce de Far West. Donc moi, je pense que
c'est un libéral qui dit ça.
Et c'est un libéral qui dit ça. Mais oui, mais attends, on peut être, comment dire, il faut un peu de nuance et de complexité. Ça sert à rien de faire l'Union européenne, de faire la France, etc., d'avoir le système qu'on a si c'est pour vendre de la camelote aux gens. On a envie quand même d'avoir une certaine sécurité. Donc moi, je trouve qu'il faudrait d'abord, évidemment, interdire la vente des produits qui sont jugés dangereux. Et si ces plateformes trichent avec le système en continuant à en vendre d'autres, on en interdit un, ils en sortent un autre qui ressemble exactement, etc. Moi, je serais pas contre d'interdire ces sites.
Bah, bien sûr, et j'aimerais simplement ajouter quelque chose. On est en train de creuser encore le fossé des inégalités parce que imaginez un enfant qui grandit dans une maison avec des parents addicts à Chine et Temu, qui achètent tous les jouets de l'enfant, des jouets chinois. On voit que les jouets, ils sont très cancérogènes, qui achètent dangereux, et dangereux,
qui
achètent des produits inflammables, etc. VS, un enfant qui grandit dans une famille qui a à cœur et qui est sensibilisé, par exemple des gens qui sont abonnés à 60 millions de consommateurs et qui lisent régulièrement de l'information sur les dangers réels de ces produits. Aujourd'hui, on va grandir dans des grandes inégalités, qui mangent bio, etc. Et ça va se répercuter sur la santé de ces deux enfants qui vont grandir. Et donc, déjà aujourd'hui, il y a une grosse inégalité liée à la santé en fonction du milieu social dans lequel vous évoluez, ça va être vraiment pire dans les années à venir.
Merci à Émilie d'avoir été avec nous. C'est Émilie qui aura conclu notre discussion des GG. On a une petite consultation, là, justement, 46% des produits sont testés dangereux. Est-ce que vous allez y renoncer? Est-ce que vous allez boycotter Chine, Temu, AliExpress? Non, à quasiment 60%.
Les gens s'en foutent.
Oui, exactement. Je pense que c'est aujourd'hui, c'est le porte-monnaie, le pouvoir d'achat
monde,
qui...
C'est que je pense qu'il y a plein de monde qui consomme sur ces plateformes, mais pas forcément du cosmétique ou du capillaire.
RMC jusqu'à midi, le meilleur des grandes gueules.